Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme c'est écrit ici, de la vie nouvelle en Christ. Alors, c'est un vaste sujet que je vais ouvrir. Je pense que je ne vais pas l'épuiser. Et j'ai mis comme sous-titre la marche avec Dieu. Parce que la vie nouvelle avec Christ, il s'agit bien d'un cheminement dont le premier tronçon se fait pendant notre vie terrestre. J'aimerais vous parler de ce sujet pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un sujet important et aussi parce que c'est pas évident. Et parce que notre vie chrétienne est faite de choses acquises une fois pour toutes, comme le pardon de nos péchés, prévu de toute éternité, acquis une fois pour toutes à la croix par Jésus et saisi une fois pour toutes par la foi le jour de notre conversion. Et la vie chrétienne est aussi faite d'autres choses qui sont en devenir, comme le fait de vivre une vie débarrassée du péché. Et ces choses ne sont pas si simples à comprendre et peuvent sembler paradoxales. Je vais vous donner deux trois petits mots de témoignage de ma compréhension des choses il y a à peu près 24 ans. J'avais à peu près 4 ans, faites pas le calcul. Enfin, je ne sais pas exactement quel âge, mais en tout cas, mes premiers souvenirs de la foi ou de ma compréhension de l'Évangile, il y avait des choses que j'avais pas vraiment saisies par rapport à ça. En fait, j'avais bien compris que quand on pêche, il faut demander pardon à Dieu. Et c'est assez évident parce que les parents passent leur temps à nous dire, une fois qu'on a fait quelque chose de mal, de demander pardon. Et donc, dès qu'on a fait quelque chose de mal, il faut demander pardon, et ensuite on est pardonné pour ce qu'on vient de faire de mal. Et finalement, la Bible dit aussi, quand on pêche, il faut confesser son péché et demander pardon à Dieu. Mais du coup, je me suis dit, s'il faut chaque fois demander pardon après avoir péché pour être pardonné, si jamais je meurs juste après avoir péché et que j'ai pas demandé pardon à Dieu, eh ben je vais aller en enfer. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une petite subtilité là-dedans. Et je pense que beaucoup d'autres personnes que moi ont mal saisi ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une grande conversation avec une amie qui est en train de découvrir la foi en ce moment. Et c'était pareil, un point sur lequel elle butait. Elle n'arrivait pas vraiment à comprendre un pardon pour les péchés passés, présents, futurs. Et puis en même temps, on continue à demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et finalement, la compréhension de la foi que j'avais eue, où il faut toujours se confesser, demander pardon pour pouvoir être pardonné de son péché, ben c'est un petit peu ce qu'elle avait retenu ou compris de l'enseignement catholique qu'elle a reçu quand elle était petite. Et donc, je vous propose de réfléchir à ce sujet de la marche avec Dieu aujourd'hui. Les deux dernières fois que je suis venu introduire le culte devant vous, je l'ai fait en me basant sur l'épître aux Éphésiens. Et donc la dernière fois, je vous avais même encouragé à lire chez vous l'ensemble de l'épître. On va voir si vous l'avez fait. Et en tout cas, vous n'allez pas être surpris par le premier passage que je vous propose de lire, parce que JL inspiré l'a déjà lu en fait pour introduire la Sainte Cène. Mais je vous propose de le relire quand même ensemble pour essayer d'en tirer des enseignements. Alors, mon premier point dans la marche avec Dieu, c'est marcher dans la foi. Et je vous propose de lire ensemble Éphésiens chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais lire dans ma traduction, hein, second matin. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il y a environ un mois, j'étais en déplacement professionnel et j'ai eu une très bonne discussion avec un de mes collègues dans laquelle j'ai pu témoigner de ma foi en Dieu et en Jésus. Ce collègue, c'est un athée convaincu. C'est un chercheur comme moi et la notion de Dieu lui est plutôt étrangère. En fait, il n'arrive pas à concevoir qu'il puisse exister des choses spirituelles qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, expérimenter comme les choses physiques. Et le fait de croire en quelqu'un qui ne voit pas le bloque pas mal quand même. Et si je lui faisais lire le texte qu'on vient juste de lire, je pense qu'il aurait beaucoup de mal à comprendre la portée de ce texte-là. Pourquoi ? Parce que ici, Dieu nous révèle des choses qui sont bien plus grandes que ce que notre esprit humain peut comprendre ou même concevoir, en fait. Ici, c'est le Créateur de l'univers qui nous donne sa vision des choses. Et ces choses-là, on peut les saisir uniquement par la foi, par la confiance en Dieu. Et c'est pas des choses qu'on peut comprendre ou réaliser par notre raisonnement. Dans ce texte, on voit différentes choses. Dieu nous dit déjà qu'il a créé l'univers. Au verset 4, qui est avant la création du monde. Et qu'avant même de créer l'univers, il avait un plan pour l'éternité, comme si Dieu avait déjà tout prévu, qui tient les temps dans la main. Ce texte nous dit que avant même qu'on soit créé, Dieu nous connaissait déjà et nous aimait déjà. Ce texte, il nous donne aussi quel est le but de notre vie. Ça, c'est une grande question existentielle, hein, à quoi on sert. Le verset 6 nous donne la réponse. Hein. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Ben voilà, ça nous donne un but pour la vie. Dans ce texte, on nous explique la portée du sacrifice de Jésus, la portée pour notre pardon, et encore bien au-delà, pour réunir tout ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, verset 10. On peut que saisir par la foi des choses comme ça, tellement c'est grandiose comme plan par rapport à notre compréhension. Et c'est aussi un texte qui nous affirme que Dieu est le maître des temps, de l'histoire, de tout ce qui se passe, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Alors, comment croire à toutes ces choses-là? La foi, saisir ces choses par la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu, c'est faire confiance dans ce qu'il nous dit, même si on ne le voit pas. Et la foi qu'on peut avoir, c'est une foi qui vient de Dieu. La Bible nous enseigne que c'est Dieu, par l'intermédiaire de son esprit, qui nous convainc, nous-mêmes. Et c'est Dieu qui nous a convaincus. Notre foi, on voit aussi qu'elle est gardée par le Saint-Esprit, au verset 13. On est marqué de l'empreinte du sceau du Saint-Esprit. Elle est marquée par l'Esprit de Dieu qui vient lui-même vivre en nous. Alors, quel doit être l'objet de notre foi? Et si on doit marcher dans la foi, qu'est-ce qu'on peut retenir? Enfin, quels sont les points essentiels qu'on doit garder dans notre foi, les choses pour lesquelles on doit faire confiance en Dieu. Alors il y en a certainement beaucoup, je vais juste vous en souligner quelques-unes d'après ce texte-là. D'abord, croyons en l'évangile qui nous sauve. L'évangile qui nous sauve, c'est ce dont on parle au verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru. Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. L'évangile qui nous sauve, c'est le point de départ de toute chose. Il nous est d'ailleurs résumé au verset 7. En lui, en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa gloire. Voici l'évangile qui nous sauve, voici le point de départ, voici ce à quoi on doit s'accrocher en tant que chrétien. Et là, pour rebondir un petit peu sur les points de témoignage que j'avais dit juste avant, non, j'étais complètement dans l'erreur. Je ne suis pas pardonné de mon péché chaque fois après que je demande pardon pour chaque péché. Une fois que j'ai placé ma foi en Dieu, ma confiance en Dieu, ma confiance dans cet évangile qui me sauve, tous mes péchés sont pardonnés. Mon sort est scellé. Le Saint-Esprit est là pour marquer ma foi. Et tous mes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. Et c'est d'abord à cette foi-là qu'il faut qu'on s'accroche dans notre vie avec Dieu. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais soulever de ce texte-là, c'est croire en la bonté de notre Père. Alors, le Père, le Dieu et Père, il est d'abord appelé Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ au verset 3. Et au verset 5, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Alors ça y est, on se retrouve, depuis notre conversion, adoptés. Maintenant, on est des enfants en part entière de notre Seigneur. On est co-héritiers, frères et sœurs de Christ. Alors, je dis ça qu'avec des mots, mais est-ce que j'arrive à réaliser la portée de ce que c'est d'être frères et sœurs de Christ? Et donc, ce Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 3, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tout ce texte parle de ça, en fait. C'est ce que J.L. a souligné tout à l'heure. Nous sommes au bénéfice des bénédictions de notre Dieu et Père. Un Père, c'est pas pour rien qu'il a choisi ce mot enfant, Père. C'est parce que il nous aime, il veut notre bien. Et c'est sur la confiance que notre Père nous aime qu'on doit baser notre foi en Christ et baser notre marche avec Dieu jour après jour. Le point suivant que je voulais souligner dans ce texte, c'est que marcher dans la foi, c'est la confiance des choses à venir, dans l'héritage et l'espérance que Dieu nous réserve. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans les derniers versets. Les versets 13 et 14. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors le Saint-Esprit nous avait été promis par Jésus. On nous en parle ici du Saint-Esprit qui était promis. Chaque personne qui croit en l'évangile qui sauve, alors j'aime bien cette expression, l'évangile qui sauve, Dieu le marque du sceau du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous une fois pour toutes. Alors le Saint-Esprit habitant en nous, c'est deux choses. C'est déjà l'avant-goût et c'est en plus la garantie de l'héritage qui va nous être réservé. Alors, quel est donc cet héritage dont on parle bien souvent dans le Nouveau Testament? L'héritage, c'est d'être, pour une fois, définitivement libéré du péché. C'est recevoir un nouveau corps incorruptible. C'est être pour l'éternité dans la présence de Dieu, célébrer sa gloire. c'est tout un tas de choses après lesquelles on aspire, qu'on a déjà en partie avec cet esprit de Dieu qui habite en nous, mais qu'on a qu'en partie. On n'est pas encore complètement libéré du péché. On traîne encore avec nous cette nature pécheresse qui est encore collée à notre corps d'une manière ou d'une autre. Pourquoi attendre cet héritage ? Alors, contrairement à la plupart des héritages, ici, attendre l'héritage, c'est pas pour attendre la mort de celui duquel vient l'héritage. En fait, ça serait plutôt le contraire. C'est plutôt attendre la vie de nos cohéritiers, ou plutôt la nouvelle vie de nos cohéritiers. Dans ma traduction ici, au verset 14, il est le gage. Donc, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ce verset, c'est le pivot en fait de toute notre problématique. Là, on peut se poser la question, si Dieu nous a sauvés maintenant, nous a pardonnés une fois pour toutes, pourquoi il ne nous emmène pas tout de suite au ciel? Pourquoi on ne peut pas enfin être libéré de cette vieille nature qui nous pousse encore parfois à pécher? Pourquoi on ne peut pas enfin être pleinement dans la présence de Dieu, enfin réunis? Et bien parce que Dieu est patient et que ce verset nous dit que on n'est pas les seuls, mais d'autres cohéritiers, on a encore d'autres frères et sœurs que Dieu veut se garder. Et nous sommes encore ici sur cette terre en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons ici la raison du fait que bien qu'étant rachetés, pardonnés, nous restons sur terre attachés à notre nature humaine, corruptible et pleine de péchés. Dieu nous laisse dans ce monde pour que nous puissions partager cette bonne nouvelle de l'évangile qui nous sauve. Et en nous équipant de son esprit, Dieu nous a donné une ligne de conduite très claire sur ce qu'il attend de nous. Ce que l'apôtre Paul appelle parfois marcher dans la plénitude de l'esprit, ou marcher dans l'esprit, c'est l'expression qui est utilisée dans Galates 5, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre au quotidien, maintenant qu'on est racheté, et en attendant qu'on sera entièrement délivré de cette nature pécheresse. Je vous invite à lire avec moi un petit peu plus loin dans cette épître, au chapitre 4, les versets 17 à 24. Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Marchez par l'Esprit. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Dieu nous a sauvés et nous a pardonnés. Il nous a certes laissés sur terre dans notre condition humaine, mais en aucun cas nous devons rester comme nous étions avant d'être pardonnés par Dieu. Dieu, par son esprit, nous a fait prendre conscience de notre péché. Il nous a fait prendre conscience des mauvais penchants naturels de notre nature humaine. Et Dieu a créé en nous une nouvelle nature, un homme nouveau, comme c'est écrit au verset 24, hein, revêtir l'homme nouveau, pour que nous puissions être libérés du péché et vivre une vie nouvelle qui plaît à Dieu et qui est guidée par le Saint-Esprit. Alors comment vivre une vie qui plaît à Dieu? Comment vivre une vie selon l'Esprit ou guidée par le Saint-Esprit? Alors simplement en suivant le raisonnement de l'apôtre Paul, la première chose, c'est de se débarrasser, de se dépouiller du vieil homme. La première chose que Dieu nous demande, c'est de rejeter le péché dans notre vie. Le Saint-Esprit a fait une fois la lumière et continue aussi jour après jour à éclairer les coins et les recoins de notre cœur pour nous faire réaliser notre impureté et pour nous faire réaliser nos péchés. Mais lorsque nous avons appris à connaître Christ, hein, verset 20, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous apprenons à reconnaître ce péché et à le dénoncer, à dénoncer notre péché. C'est comme ça qu'on peut dénoncer notre péché et vouloir s'en détourner. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de ce vieil homme? Comment on peut faire pour s'en débarrasser et pour revêtir le nouveau? Alors, se débarrasser du vieil homme, c'est reconnaître notre péché, c'est le confesser à Dieu, vouloir s'en détourner. Confesser à Dieu, c'est pas demander pardon parce qu'on n'est pas pardonné. C'est reconnaître son péché pour pouvoir s'en détourner. Et si nous le confessons, nous avons l'assurance déjà qu'il est fidèle et juste pour nous le pardonner, comme nous le dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 1,9. Mais une fois que Dieu nous a lavés, comment ne pas retourner se salir? Il s'agit ici en fait de laisser les rênes à Dieu, de volontairement laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. Au verset 23, il nous est dit On vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Alors si c'est bien l'Esprit de Dieu qui va nous renouveler, qui va renouveler notre intelligence, nous on nous demande de nous laisser renouveler, de laisser les rênes à Dieu, de demander à Dieu de prendre la tête, de prendre le volant de notre vie. Et nous devons agir comme le Saint-Esprit nous l'enseigne pour honorer Dieu par ce que nous faisons dans notre vie. Alors c'est bien beau tout ça, hein, de laisser les rênes à Dieu, mais ça peut paraître parfois un petit peu abstrait. Hein. C'est une image, mais ça reste qu'une image, hein, laisser le volant à Dieu. À quoi voit-on que c'est Dieu qui dirige notre vie? Comment ça se manifeste concrètement quand on marche par l'Esprit? Alors, marcher par l'Esprit, c'est faire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors Dieu, quand il nous a sauvés, il avait tout un programme pour nous. Et il a déjà préparé, en fait, un certain nombre de bonnes œuvres qu'on va pouvoir pratiquer. Et ça, c'est dans la même épître, au chapitre 2, le verset 10. En réalité, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, quelles sont ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous? Alors, c'est tout simplement les œuvres qui proviennent du Saint-Esprit. Alors là, forcément, c'est logique, étant donné que ça correspond à se laisser guider par l'Esprit et faire ce qu'il nous demande. Mais justement, c'est ce que Paul développe par étant ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, tout simplement, les œuvres qui proviennent d'une vie dirigée par le Saint-Esprit. Alors Dieu, l'apôtre Paul nous indique à plusieurs endroits ce que c'est, hein, un certain nombre de détails sur le fruit de l'esprit. Alors nous avons par exemple dans Éphésiens chapitre 5, le verset 9, le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Ou encore, de manière encore un petit peu plus développée, un verset que j'espère beaucoup d'entre nous connaissent par cœur, dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et dans ce passage, c'est mis exactement en opposition avec les œuvres de la chair, les œuvres vers lesquelles on serait naturellement poussé en suivant les penchants naturels de notre vieille nature, notre vieil homme dont on cherche à se débarrasser. Quand on marche par l'esprit, la différence, elle doit être visible, elle doit être externe, elle doit être évidente, elle doit être à l'opposé, et en tout cas, nous-mêmes, on doit voir la différence entre notre vie après avoir passé notre foi en Jésus et notre vie avant avoir passé notre foi en Jésus. On doit voir l'œuvre de Dieu dans notre vie, et si on la voit pas assez, eh ben on revient à la quête précédente. On se débarrasse, on confesse notre péché et on demande à Dieu de reprendre les rênes de notre vie. Et voilà ce que c'est que de marcher par l'Esprit. Alors marcher dans la foi, marcher par l'Esprit, si j'arrête ici mon exposé, je pense que, en fait, j'aurais dit que la moitié. Parce que j'aurais quelque part même tordu le texte en choisissant mes versets. En fait, quand on dit uniquement ça, on peut avoir l'impression que chaque chrétien peut marcher avec Dieu, chacun de son côté. Mais c'est absolument pas ce que ce texte veut nous dire. Et c'est important de remettre ici le texte qu'on vient de lire juste dans son contexte immédiat avec les versets autour, et c'est ce que je vous propose de faire. Ben, simplement lire par exemple les deux versets précédents et puis le verset qui suit le texte qu'on vient de lire. Alors Éphésiens 4, les versets 15 et 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et le verset après, le passage qu'on a lu, au verset donc 25, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si on est appelé à marcher avec Dieu, on est appelé à marcher ensemble, avec Dieu, avec Christ comme tête. Marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher chacun de son côté, c'est marcher ensemble dans la même direction. D'ailleurs, si on garde cette image que nous sommes tous ensemble un même corps, on ne voit pas trop comment un même corps pourrait marcher dans plusieurs directions à la fois. Et donc on est bien obligé de marcher ensemble. En tant qu'église de Dieu, tous les croyants sont membres d'un seul corps dont Christ est la tête. Christ est la tête, c'est lui qui donne la direction. Et c'est ensemble que nous devons avancer. Mais pour que tous les membres de ce corps se coordonnent, et nos relations entre nous, et tout d'abord dans l'Église, qui se représente d'abord par notre Église locale, ces relations doivent être particulièrement transformées par la marche par l'esprit. Et c'est dans ce contexte que Paul fait tout ce développement. Si on marche dans la foi, c'est pour pouvoir refléter le corps de Christ. Alors tout d'abord, nous devons vivre dans la vérité. Et c'est comme ça que Paul a introduit ce texte ici. Verset 15, « Mais en disant la vérité dans l'amour » et verset 25, « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Marcher ensemble, c'est d'abord vivre dans la vérité. Avec le mensonge, on ne peut rien construire. Donc c'est au chapitre précédent d'Éphésiens, il y a une autre image qui est donnée pour l'Église, c'est celle d'un édifice. Un édifice dont la pierre angulaire est Jésus, avec la même idée que ce corps. Avec un édifice, on peut s'imaginer construire une cathédrale. Enfin, je ne veux pas dire que les constructeurs de cathédrales le faisaient forcément pour Dieu, mais... En tout cas, on peut s'imaginer un petit peu construire une cathédrale. Avec Jésus, c'est la dernière pierre qu'on met tout en haut, celle juste avant d'enlever l'échafaudage. Celle, si on l'enlève, tout s'écroule. Celle tout en haut de l'édifice. Si on construit un édifice comme ça, avec des relations dans lesquelles s'insère le mensonge, c'est comme si pour faire notre mortier, on n'utilisait que du sable et pas du ciment. On peut que aller vers la destruction de l'édifice avec du mensonge à la place de la vérité dans nos relations. Et la vérité est primordiale pour que nous puissions œuvrer ensemble, marcher dans la même direction et construire et s'édifier les uns les autres. Ensuite, marcher ensemble, c'est vivre dans l'amour. Je vais vous lire dans le chapitre suivant, le verset 1 du chapitre 5, 1 et 2. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » Alors, s'il y a juste une règle générale de comment on fait pour marcher ensemble selon Dieu, ben, ça serait peut-être marcher sans l'amour, parce que ça se décline de plein de manières. Et si nos relations sont empreintes de l'amour, si elles sont empreintes de l'exemple que Christ nous a donné, de l'amour que lui-même a eu pour nous, a eu pour son Église, eh ben, nos relations seront complètement transformées. Et c'est ce que Paul va ensuite développer dans tout le reste de l'épître ensuite. Si jamais nos relations sont basées sur l'amour, les relations à l'intérieur du couple, d'abord, vont être complètement transformées. Donc ça, c'est dans le chapitre 5. Ensuite, dans le chapitre 5, je crois aussi, le chapitre 6, nos relations dans notre travail par rapport à notre patron, nos relations avec nos enfants, dans la famille, toutes nos relations les plus proches, celles qu'on construit jour après jour, celles dont on a besoin pour vivre, étant donné qu'on essaie de relations, elles seront complètement transformées par l'amour que Dieu veut mettre dans nos vies. Et enfin, marcher ensemble, c'est vivre le service. Et là, je vais simplement reprendre le verset 16 du chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure. C'est de lui, c'est de Christ que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors là, je vous lis juste une conclusion, hein, parce que le développement est avant. Pour s'édifier ensemble, pour que le corps s'édifie lui-même, le corps tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Le Seigneur nous a doté chacun de dons et de qualités différentes. Il nous les a donnés pour que nous les mettions au service de l'Église, de nos frères et sœurs. Et ainsi, nous pourrons nous édifier mutuellement. Ainsi, on pourra marcher par l'Esprit en tant qu'Église, en tant qu'un seul corps, en tant qu'un seul cœur aussi d'ailleurs. Et ainsi, on pourra construire quelque chose, construire cet édifice qu'est l'Église. Bon, je suis bien conscient et déçu que c'est qu'un survol en fait du sujet tellement il est vaste, hein. Pour conclure, je vais simplement peut-être reprendre les différents points. La marche avec Dieu, c'est un programme pour l'éternité, hein. C'est un programme qui commence le jour où on place notre confiance en Dieu. Ça commence par la foi. Ça commence par avoir entendu l'évangile qui nous sauve et croire en cet évangile. Et à partir de là, c'est pas la fin, mais c'est le début. À partir de là, nous ancrons notre foi en Dieu. Nous croyons en la bonté de notre Père qui veut des bonnes choses pour nous, pour notre vie ici-bas, pour notre vie future. C'est bien pour ça, il nous a réservé un héritage incorruptible que personne ne peut nous voler, étant donné que le Saint-Esprit nous le garantit. Et notre vie chrétienne est surtout faite d'une marche selon l'Esprit. Marcher ensemble en tant qu'Église et marcher en rejetant nos penchants naturels et en nous soumettant à Christ et à l'Esprit de Dieu que Christ nous a promis et que Dieu le Père nous a envoyé pour habiter dans nos cœurs. C'est tout un programme, tout ça, et je vais simplement conclure avec quelques versets dans le chapitre 5 d'Éphésiens, les versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen.
Merci Sam. C'est vrai que il faut des bonnes chaussures et on sait qu'on est chaussé des meilleures chaussures. C'est l'équipement. Notre frère Paul a été inspiré. Hein. Alors, ce dimanche, même si ce n'est pas exactement le dernier dimanche, c'est quand même un jour spécial, parce que, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour arriver et il y a un temps pour partir. Et on a une famille, deux familles même, avec les Joyards. Mais ce matin, la famille Sidel, l'Église aimerait, vous témoigner son affection. Et je demanderai à Sam de venir. Et Pauliana, je la vois pas. Elle est à la garderie. Peut-être qu'on pourrait l'appeler. Avec les enfants aussi, Valis. Et puis peut-être François et Eric, si vous pouvez me rejoindre. Ça, c'est les aléas du direct. En tout cas, c'est vrai que C'était pas pour Aurore et moi, c'était aussi particulier puisque pendant plusieurs années, on va dire même, on a eu à partager on a partagé des bons moments, on a partagé des moments plus douloureux ensemble lors de nos réunions de prière décentralisées. Et voilà, sachez que ça restera dans nos cœurs et je pense que vous avez témoigné à chacune des personnes de l'Église ce que vous êtes, ce que le Seigneur vous permet d'être. Et voilà. Pauliana, les filles, Luna, Ketia. Oula, il y a du monde là. Voilà, donc l'Église souhaitait témoigner à la famille Sidel particulièrement notre gratitude au Seigneur d'avoir pu cheminer ou marcher ensemble pendant ce temps que le Seigneur nous a donné. Et nous aimerions maintenant vous remettre au bon soin de notre Dieu pour la suite, qu'il continue à vous utiliser comme il l'a fait au sein de notre rassemblement et à vous faire grandir là où il vous conduira. Éric, François, si vous pouvez... Je t'en prie, François.
Alors, on a étudié notamment cette année les prières de Paul en étude biblique. Et je pense qu'il y a un passage qu'on a vu durant cette année qui convient un peu particulièrement à notre situation aujourd'hui. Et l'apôtre Paul se rendait compte, en fait, qu'il avait quelque chose d'important à faire. Non seulement d'important, mais qu'il devait aussi le faire continuellement. Et cela vis-à-vis de ses frères et sœurs de l'Église en question. Alors, je changerai peut-être le mot frère, vous me pardonnerez, je pense que le Seigneur me pardonnera aussi, je vais vous lire ce texte. C'est dans 2 Thessaloniciens 1. Nous devons, chère famille Sidel, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on a été au bénéfice de votre travail pour le Seigneur dans l'Église, mais il me semble aussi qu'on a été au bénéfice de votre affection pour nous. Et ton message ce matin, c'est ton souci de nous voir marcher dans la foi, dans l'esprit, et de le faire ensemble. Et je pense que nous allons retenir ton exhortation, la méditer et la garder. Alors je ne sais pas ce qu'est exactement la volonté pour vous, mais je sais que la volonté de Dieu pour vous est la meilleure. De quoi elle sera faite, de circonstances de vie, et ce sera la meilleure. Vous savez que vous partez avec deux filles, hein. Bon. J'espère que le Seigneur vous ramènera vers nous, peut-être avec deux garçons de plus. Alors, en tout cas, nous voulons prier. Seigneur, oui, nous voulons, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, relever vraiment les grâces que tu as mises dans le cœur de nos bien-aimés. Merci pour tout ce qu'ils nous ont apporté dans l'humilité, dans la discrétion qui caractérise cette famille. Merci du haut de sa petite trentaine de la sagesse que ça m'a su manifester dans nos groupes de partage, d'église ou de responsables. Nous voulons te les confier pour la vie où tu les emmènes, le lieu où tu les amènes, mais nous voulons aussi te confier le rassemblement qui les accueillera pour que ce rassemblement puisse leur apporter, Seigneur, aussi l'affection dont ils ont besoin. Veuille, Père, les bénir. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, nous voulons nous adresser à toi pour te louer, te bénir, te remercier pour cette famille que tu as placée dans notre église ici, pour tout ce qu'ils ont fait pour elle, pour les bénédictions qu'ils ont apportées. Nous voulons te les confier maintenant pour ce départ, pour ce déménagement. Tu vois les difficultés que cela peut générer. Nous voulons vraiment te les confier, les placer dans ta bonne main. Nous voulons aussi te les confier pour l'accueil qu'ils vont recevoir là-bas en Irlande, pour cette église dans laquelle ils vont s'installer, pour qu'ils y retrouvent cette grande famille, comme nous l'a dit tout à l'heure Sam, pour marcher ensemble. Ils seront peut-être loin de nous, mais ils seront de cœur avec nous. Et vraiment, nous voulons te les remettre pour tout cela, te les remettre pour que tu les bénisses richement dans cette nouvelle vie, pour que tu bénisses les enfants aussi dans leur nouvelle école, dans toutes les personnes qu'ils vont côtoyer, qu'ils continuent à être ces témoins de ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait pour eux, et merci pour ce que tu feras demain pour eux toujours. Amen.
Amen. Je voulais juste dire à Sam, le Royaume-Uni par rapport à l'Europe, il y a une heure de temps, une heure de mois, et il y a la distance, on espère, peut-être, on va faire la tournée de l'Espagne avec le vidéo.
La technologie. Alors, une nouvelle fois ce matin, j'avais noté un verset pour leur laisser de la part de l'Église, et c'est 2 Thessaloniciens. C'est l'émotion. Et c'est le chapitre 1, et par contre, c'est le verset d'après, c'est le verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, dans l'église de la rue Sonnera, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez ou que vous avez eues ou peut-être que vous aurez à supporter. Voilà, de la part de l'église de la rue Pierre-Sonnera. Merci. Bon dimanche.